L'homme à la peau de bique. D'après Maurice Leblanc. Le village fut terrifié. C'était un dimanche. Les paysans de Saint-Nicolas et des environs sortaient de l'église et se répandaient à travers la place, quand tout à coup, des femmes, qui marchaient en avant et tournaient déjà sur la grande route, refluèrent en poussant des cris d'épouvante. Et aussitôt, on aperçut, énorme, effroyable, pareil à un monstre, une automobile qui débouchait à une allure vertigineuse. Parmi les clameurs et la fuite éperdue des gens, elle piqua droit vers l'église, vira au moment même où elle allait se briser contre les marches, frôla le mur du presbytère, retrouva le prolongement de la route nationale, s'éloigna, sans même avoir, miracle incompréhensible, effleuré en ce crochet diabolique une seule des personnes qui encombraient la place, et disparut. Mais on avait vu. On avait vu sur le siège, couvert d'une peau de bique, coiffé de fourrure, le visage masqué de grosses lunettes, un homme qui conduisait. Et près de lui, sur le devant de ce siège, renversé, ployé en deux, une femme dont la tête ensanglantée pendait au-dessus du capot. Et on avait entendu les cris de cette femme, cris d'horreur, cris d'agonie. Et ce fut une telle vision de carnage et d'enfer que les gens demeurèrent quelques secondes immobiles, stupides.
« Du sang !»
hurla quelqu'un. Il y en avait partout du sang, sur les cailloux de la place, sur la terre que les premières gelées de l'automne avaient durcie. Et lorsque des gamins et des hommes s'élancèrent à la poursuite de l'auto, ils n'eurent qu'à se diriger d'après ces marques sinistres. Elle suivait d'ailleurs la grande route, mais d'une si étrange manière, allant d'un côté à l'autre et traçant près du sillage des pneumatiques une piste en zigzag qui donnait le frisson. Comment l'automobile n'avait-elle pas heurté cet arbre? Comment avait-on pu la redresser avant qu'elle ne fît panache au long de ce talus? Quel novice, quel fou, quel ivrogne, ou plutôt criminel effaré, conduisait cette voiture avec de tels soubresauts? Un des paysans proféra
« Jamais ils prendront le tournant de la forêt. »
Et un autre dit
« Eh, parbleu, non, et c'est la culbute. »
À 500 mètres de Saint-Nicolas commençait la forêt de Morgue, et la route, droite jusque-là, sauf un coude léger au sortir du village, montait dès son entrée dans la forêt et faisait un tournant brusque parmi les rocs et les arbres. Ce tournant, aucune automobile ne pouvait le prendre sans avoir ralenti au préalable. Des poteaux indicateurs signalaient le danger. Essoufflés, les paysans arrivèrent au quinconce de hêtres que formait la lisière. Et tout de suite, l'un d'eux s'écria
« Eh, ça y est !»«
Et quoi ?»«
Elle a culbute !»
L'automobile, en effet, une limousine, gisait, retournée, démolie, tordue, informe. Près d'elle, le cadavre de la femme. Mais ce qu'il y avait de plus affreux, spectacle ignoble et stupéfiant, c'est que la tête de cette femme était écrasée, aplatie, invisible, sous un bloc de pierre énorme, posé là, on ne pouvait savoir par quelle force prodigieuse. Quant à l'homme à la peau de bique, on ne le trouva point. On ne le trouva point sur le lieu de l'accident. On ne le trouva point non plus aux environs. En outre, des ouvriers qui descendaient la côte de Morgue déclarèrent qu'ils n'avaient rencontré personne. Donc, l'homme s'était sauvé par les bois. Ces bois, que l'on appelle forêts à cause de la beauté et de la vieillesse des arbres, sont de dimensions restreintes. La gendarmerie, aussitôt prévenue, fit, avec l'aide de paysans, une battue minutieuse. On ne découvrit rien. De même, les magistrats instructeurs ne tirèrent, de l'enquête approfondie qu'ils poursuivirent pendant plusieurs jours, aucun indice susceptible de leur donner la moindre lumière sur ce drame inexplicable. Au contraire, les investigations aboutissaient à d'autres énigmes et à d'autres invraisemblances. Ainsi, on constata que le bloc de pierre provenait d'un éboulement distant d'au moins 40 mètres. Or, l'assassin, en quelques minutes, l'avait apporté et jeté sur la tête de sa victime. D'autre part, cet assassin qui, en toute certitude, n'était pas caché dans la forêt, sans quoi on l'aurait inévitablement découvert, cet assassin, 8 jours après le crime, eut l'audace de revenir au tournant de la côte et d'y laisser sa peau de bique. Pourquoi ? Dans quel but ? Sauf un tire-bouchon et une serviette, cette fourrure ne contenait aucun objet. Alors, on s'adressa au fabricant de l'automobile, qui reconnut cette limousine pour l'avoir vendue 3 ans auparavant à un Russe, lequel Russe, affirma le fabricant, l'avait vendue aussitôt. À qui ? Elle ne portait pas de numéro matricule. De même, il fut impossible d'identifier le cadavre de la morte. Ses vêtements, son linge n'offraient aucune marque. Quant à son visage, on l'ignorait. Cependant, des émissaires de la sûreté remontaient en sens inverse la route nationale suivie par les acteurs de ce drame mystérieux. Mais qui prouvait que, dans le courant de la nuit précédente, l'automobile eût justement suivi cette route? On vérifia, on interrogea. Enfin, on réussit à établir que la veille au soir, à 300 kilomètres de là, dans une petite ville située le long d'un chemin de grande communication qui s'embranchait sur la route nationale, une limousine s'était arrêtée devant un magasin d'épicerie et d'alimentation. Le conducteur avait d'abord empli son réservoir d'essence, acheté de l'huile et des bidons de rechange, puis avait emporté quelques provisions, du jambon, des fruits, des gâteaux secs, du vin et une demi-bouteille de cognac, 3 étoiles. Sur le siège, il y avait une dame. Elle ne descendit point. Les rideaux de la limousine étaient baissés. L'un de ces rideaux bougea plusieurs fois. Le garçon de magasin ne doutait pas qu'il n'y eût quelqu'un à l'intérieur. Si la déposition de ce garçon était juste, le problème se compliquait encore, car aucun indice n'avait révélé la présence d'une troisième personne. En attendant, puisque les voyageurs s'étaient munis de provisions, il restait à établir ce qu'ils en avaient fait et ce qu'étaient devenus les débris de ces provisions. Les agents revinrent sur leurs pas. Ce n'est qu'à la bifurcation des deux routes, c'est-à-dire à 18 kilomètres de Saint-Nicolas, qu'un berger, questionné par eux, leur signala une prairie voisine que cachait un rideau d'arbustes et où il avait vu une bouteille vide et différentes choses. Au premier examen, les agents furent convaincus. L'automobile avait stationné là, et les inconnus, probablement après une nuit de repos dans leur automobile, s'étaient restaurés et avaient repris leur voyage au cours de la matinée. Comme preuve irrécusable, on retrouva la demi-bouteille de cognac 3 étoiles vendue par l'épicier. Cette bouteille avait été brisée net, au ras du goulot. Le caillou dont on s'était servi fut recueilli, ainsi que le goulot muni de son bouchon cacheté. Sur le cachet de métal se voyait la trace des tentatives faites pour déboucher normalement la bouteille. Les agents continuèrent leurs recherches et suivirent un fossé qui bordait la prairie, perpendiculairement à la route. Il aboutissait à une petite source cachée sous des ronces, et d'où il semblait que se dégagea une odeur putride. Ayant soulevé ces ronces, ils aperçurent un cadavre. Le cadavre d'un homme dont la tête fracassée ne formait plus qu'une sorte de bouillie où les bêtes pullulaient. Il était habillé d'un pantalon et d'une veste de cuir marron. Les poches étaient vides. Ni papier, ni portefeuille, ni montre. Le surlendemain, l'épicier et son garçon de magasin, convoqués en hâte, reconnaissaient formellement à son costume et à sa stature le voyageur qui, la veille du crime, avait acheté des provisions et de l'essence. Ainsi donc, toute l'affaire recommençait sur de nouvelles bases. Il ne s'agissait plus d'un drame à deux personnages, un homme et une femme, dont l'un avait tué l'autre, mais d'un drame à trois personnages, avec deux victimes, dont l'une était précisément l'homme que l'on accusait d'avoir tué sa compagne. Quant à l'assassin, aucun doute. C'était le troisième personnage qui voyageait à l'intérieur de l'automobile et qui prenait la précaution de se dissimuler derrière les rideaux. Se débarrassant d'abord du conducteur, il l'avait dépouillé, puis blessant la femme, il l'emportait dans une véritable course à la mort. Affaires nouvelles, découvertes inopinées, témoignages imprévus, on pouvait espérer que le mystère allait s'éclaircir, ou tout au moins que l'instruction ferait quelques pas dans la voie de la vérité. Il n'en fut rien. Un cadavre se rangea auprès du premier cadavre. Des problèmes s'ajoutèrent aux autres problèmes. L'accusation d'assassinat passa de celui-ci à celui-là. Voilà tout. En dehors de ces faits tangibles, évidents, les ténèbres. Le nom de la femme, le nom de l'homme, le nom de l'assassin. Autant d'énigmes. Et puis, qu'était devenu cet assassin? S'il avait disparu d'une minute à l'autre, c'eût été déjà un phénomène passablement curieux. Mais le phénomène touchait au miracle en ce que l'assassin n'avait pas absolument disparu. Il était là. Il revenait sur le lieu de la catastrophe. Outre la peau de bique, on ramassa un jour une casquette de fourrure et, prodige inouï, un matin, après une nuit complète passée en faction dans les rochers du fameux tournant, des lunettes de chauffeur cassées, rouillées, salies, hors d'usage. Comment l'assassin avait-il pu rapporter ces lunettes sans que les agents le vissent? Et surtout, pourquoi les avait-il rapportées? Il y eut mieux. La nuit suivante, un paysan, obligé de traverser la forêt et qui par précaution avait emporté son fusil et emmené ses deux chiens, s'arrêta net au passage d'une ombre dans les ténèbres. Ses chiens, deux chiens loups à demi sauvages et d'une vigueur exceptionnelle, bondirent au milieu des taillis, et la poursuite commença. Elle dura peu. Presque aussitôt, le paysan perçut deux hurlements horribles, qui s'achevèrent du même coup en plainte d'agonie. Et puis le silence. Le silence absolu. Terrifié, il prit la fuite, abandonnant son fusil.